RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Clotilde Dumais.
Bonsoir à tous. Après quelques semaines de tergiversations, le pass vaccinal est finalement entré en vigueur aujourd'hui. Et les gérants des établissements recevant du public peuvent contrôler l'identité des détenteurs de pass en cas de doute. Une nouvelle prérogative qui dérange. Témoignage à suivre au début de ce journal. Dans l'actualité également, le Burkina Faso qui fait visiblement face à son tour à un coup d'État. Les premières tensions entre Occidentaux sur le dossier ukrainien. Et puis comment les bouquinistes de Paris vont-ils écrire leur avenir? Ils ont du mal à trouver des successeurs, alors la mairie vient de lancer une campagne de recrutement. C'est toujours un QR code à scanner et aucune démarche n'est à réaliser sur l'application Tous Anti-Covid. Mais à partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire est remplacé par le pass vaccinal pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Concrètement, il faut donc désormais un schéma vaccinal complet pour accéder aux activités de loisirs, aux bars et restaurants, foires, séminaires, salons professionnels et transports interrégionaux. Les gérants de ces établissements recevant du public peuvent même, en cas de doute, contrôler l'identité du détenteur du pass. Une mesure qui divise les restaurateurs interrogés par Marion Bastide à Angers.
Demander une pièce d'identité en plus, bon, ça va nous prendre un tout petit peu plus de temps, mais honnêtement, jusqu'à présent, on n'a aucun client qui nous a fait d'histoire quand on demandait le pass pour pouvoir le scanner. Donc je ne pense pas que le fait de demander une pièce d'identité soit un problème supplémentaire.
Moi, je ne suis pas prêt à le faire du tout. Je pense qu'il faut compter sur la bonne foi des gens. Et puis, on n'est pas policier ni gendarme, donc on n'est pas là pour contrôler l'identité des personnes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie, puis qu'on n'a pas spécialement le temps non plus, parce que ça prend du temps. Rien que le pass sur les téléphones, c'est compliqué. Et là, si en plus, il faut demander la pièce d'identité, nous, on n'est pas là pour ça, en fait.
Là, ça commence à être un petit peu le pompon sur la Garonne. On a autre chose à faire, ne serait-ce que trouver des clients, faire à manger, cuisiner dans nos petits popos, et faire tout ce qu'on peut, en fait, pour satisfaire les personnes. J'y pense même pas, parce que j'ai autre chose à penser.
Je trouve ça très dérangeant. Je trouve qu'on rentre dans l'intimité des gens, et que ce n'est pas notre travail à nous en tant que restaurateurs. Moi, je préfère vendre un verre de vin et passer 5 minutes avec quelqu'un pour lui expliquer le cépage, que de savoir si il s'appelle Mamadou, Jacques, Bernard, voilà, ça m'intéresse pas. Je fais déjà le pass vaccinal. Après le reste, d'aller demander l'identité des gens, de savoir si c'est un vrai pass ou pas, c'est pas mon travail en fait. Je suis pas gendarme.
Et à noter qu'un certificat de rétablissement après une infection au Covid-19 peut aussi fonctionner comme passe vaccinal. Les personnes qui ne sont pas encore vaccinées peuvent également obtenir un passe dès la première dose à condition de présenter un test négatif de moins de 24 heures et de faire la deuxième dose le mois suivant. Un test négatif n'est en tout cas plus suffisant, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Voilà qui pourrait réduire la cadence du nombre de dépistages réalisés ces dernières semaines au moment des fêtes de fin d'année puis de la rentrée scolaire. Malgré tout, pour renforcer les capacités de test, un arrêté publié vendredi dernier au journal officiel étend la liste des professionnels habilités à réaliser des prélèvements. Orthophonistes, podologues, diététiciens, psychomotriciens ou encore opticiens. Une mesure qui a toutefois ses limites, d'après Brice Jansem, vice-président du syndicat des audioprothésistes.
On trouve que c'est une reconnaissance pour la profession. On reconnaît notre rôle dans le système de santé. Donc ça, c'est plutôt un bon signe symbolique. Dans la pratique, pas forcément facile à mettre en œuvre parce que c'est pas dans nos centres qu'on va faire du dépistage, puisque c'est sous la supervision d'un médecin, d'un kiné ou d'un infirmier. Ça sous-entend que c'est dans des centres de dépistage uniquement. Et comme dans notre profession, il y a à peu près 2/3 de salariés qui sont pour la plupart à temps plein, je sais pas si beaucoup pourront se rendre disponibles en fait. On a aujourd'hui beaucoup d'activités là depuis début 2021, donc les carnets de rendez-vous sont remplis. Je pense que pour que ça soit efficace, il faudrait qu'on puisse faire les dépistages dans nos centres en fait.
Et en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il est possible de mettre fin cette année à la phase aiguë de la pandémie. Mais difficile de supposer qu'Omicron sera le dernier variant d'après l'OMS. Et puis la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a classé sans suite près de 20 000 plaintes contre Jean Castex, Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer ou Jean-Baptiste Djebbari. Les faits dénoncés ne sont pas de nature à caractériser un délit d'après la CJR. Il annoncera sa décision en temps voulu, à moins de 80 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron occupe toujours le terrain sans se positionner officiellement. Le président de la République était dans la Creuse aujourd'hui au chevet du monde rural, toujours confronté à la désertification médicale, comme a pu en témoigner auprès du chef de l'État Jean-Claude Orousseau, le maire de Genouillac, dans la Creuse.
C'est pas qu'on manque de docteurs, mais qu'ils sont mal répartis. Et moi, je suis pratiquement pour la coercition, c'est-à-dire comme quand on est reçu facteur, il faut obliger les gens à aller dans les territoires où il y a un manque, quitte à ne pas les conventionner dans les territoires où ils sont en surnombre. Bien sûr qu'à un certain moment, il faut obliger les gens à se répartir équitablement sur le territoire national. Je vois pas pourquoi sur la Côte d'Azur ou dans des régions côtières, attractives touristiquement, ben, il y a une pléthore de médecins qui, pour certains d'ailleurs, doivent à peine gagner le SMIC. Ben, ils viennent chez nous, ils vont gagner 10 000 euros. J'en suis certain, par mois, ils seront bien. Voilà. Alors moi, dans ma commune, ben, j'ai réussi à attirer deux médecins. On les a attirés, j'allais dire, avec l'argent. Et puis de l'autre côté, avec le cœur. Quand on recrute, on accompagne. C'est-à-dire que le jeune médecin qui arrive, il n'est pas dans la nature. On a une petite doctoresse qui vient de Guadeloupe et elle va rester chez nous. Elle a été très bien accueillie quand elle faisait ses études à Limoges. Et elle a souhaité nous remercier. Et pour nous remercier, ben, elle va rester un certain temps en Creuse.
Emmanuel Macron poursuit son tour de France demain en Haute-Vienne dans une maison France Service puis à Oradour-sur-Glane. Deux ans après la mort de Cédric Chou, via une nouvelle expertise médicale confirme la responsabilité des policiers qui avaient interpellé le chauffeur livreur lors d'un contrôle routier à Paris. Il avait été plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête et avait perdu connaissance avant de mourir à l'hôpital. Les cinq experts mandatés par le juge d'instruction retiennent comme cause du décès une association simultanée de plusieurs facteurs découlant des gestes d'interpellation ayant abouti à une privation très rapide d'oxygène au cerveau. Situation encore très confuse ce soir au Burkina Faso. Après plusieurs mutineries de soldats hier soir dans des casernes, on ne sait toujours pas avec certitude où est le président Rochmar Christian Kabore. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest parle d'une tentative de coup d'État. Bonsoir Baptiste Madinier.
Bonsoir Clotilde, bonsoir à toutes et à tous.
C'est donc une énième épisode d'instabilité sur l'échiquier sahélien où la position française semble de plus en plus intenable, Baptiste.
Et oui, il y a quelques minutes, les militaires viennent d'annoncer la destitution du président Rochmar Christian Kabore. Ils ont pris la parole à la télévision pour annoncer la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, la fermeture des frontières aériennes et terrestres jusqu'à nouvel ordre, ainsi qu'un couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin. Après une journée d'incertitude, on peut donc parler de coup d'État. Reste à savoir maintenant, vous le disiez, où est le président Rochmar Christian Kabore. Selon les mutins, en début de journée, il a été arrêté. Il serait détenu dans une caserne. Le clan du président assure quant à lui qu'il a échappé à une tentative d'assassinat. Des mutineries avaient donc éclaté hier soir dans des casernes un peu partout dans le pays. Les soldats réclamaient le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés dans la lutte contre les djihadistes. Depuis 2015, en effet, le Burkina, longtemps vu comme une oasis dans un océan d'instabilité, a lui aussi été rattrapé par le terrorisme sahélien. Il fait aujourd'hui partie des zones d'intervention françaises. Et donc avec ce coup d'État, c'est le troisième pays sur les quatre couverts par Barkhane qui a basculé. Depuis le coup d'État d'août 2020, le Mali, voisin, est dirigé par la junte militaire, tout comme le Tchad. Depuis la mort du président Idriss Déby, il y a 9 mois, seul le Niger dans l'opération Barkhane est encore avec à sa tête un président élu.
Merci beaucoup Baptiste pour toutes ces précisions. Les États-Unis ont ordonné l'évacuation des familles des diplomates américains en poste en Ukraine. La décision a surpris l'Union européenne qui a demandé des explications au secrétaire d'État américain Anthony Blinken au cours d'une visioconférence cet après-midi. Les autorités ukrainiennes estiment également que cette annonce est prématurée et excessive. Dans le même temps, l'OTAN a décidé de placer des force en attente et d'envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer sa défense en Europe de l'Est. De quoi faire apparaître de premières divergences entre les Occidentaux, comme l'explique Cyril Brett, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des relations internationales.
Les Européens et les Américains ne sont pas exposés aux mêmes risques. Quand les Américains dramatisent ou polarisent la situation et menacent de sanctions la Russie, ils ne courent aucun risque économique. Et ils ne courent pas non plus de risques stratégiques à proximité de leur territoire. Quand les Européens envisagent des sanctions ou analysent la situation, ils le font avec des intérêts économiques et des intérêts stratégiques qui sont très importants. L'Ukraine est à leur porte, c'est vers eux que l'Ukraine s'est tournée économiquement. Et ils doivent cohabiter avec la Russie sur le même continent. Il me semble que l'analyse du conflit par les Européens est plus froide, plus modérée et plus consciente des réalités du terrain et du continent. Alors que les États-Unis ont une approche qui vise à polariser pour maintenir le rapport de force.
Et dans le même temps, Londres a aussi annoncé le retrait d'une partie du personnel de son ambassade à Kiev. La France déconseille de reporter les voyages non essentiels en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin dénonce, lui, une hystérie. En Allemagne, un homme a ouvert le feu pendant un cours d'amphithéâtre dans une université à Heidelberg. Une jeune femme est décédée, 3 autres personnes ont été blessées. Le tireur s'est ensuite suicidé. Ils font partie du paysage parisien depuis plus de 450 ans, mais pour combien de temps encore? Les bouquinistes, emblèmes des quais de Seine de la capitale, peinent à recruter. Sur 241 emplacements, 18 sont encore à pourvoir. Alors la mairie vient de lancer une campagne de recrutement, Clara Gabillet.
C'est un rituel à chaque fois qu'il vient à Paris, les quais de Seine et ses grosses boîtes vertes remplies de livres d'occasion. Écrivain, Édouard Brazet n'imagine pas un instant qu'elle n'existe plus.
Ça serait une partie de Paris, de l'âme de Paris qui disparaîtrait sur moi. Au même titre que Notre-Dame qui hélas a brûlé, que d'autres endroits comme le Louvre qui pour moi sont des symboles de Paris. Paris sans les bouquinistes, c'est plus tout à fait Paris.
De l'autre côté de la Seine, Gilles Morino est l'un des rares ouverts à cause du vent très froid, des conditions météo démotivantes et un travail assez précaire.
C'est extrêmement difficile de vivre de ce métier. Il faut se faire une clientèle. Pour faire 2 repas par jour et avoir un toit sur la tête, on a besoin d'un passage important. Or, il y a énormément moins de tourisme à Paris du fait de la crise. Pour un jeune, débuter dans ce métier, c'est compliqué.
Depuis 2 ans, le nombre de candidatures a dégringolé d'une centaine par an à seulement 10 en octobre dernier, regrette Jérôme Calais, président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris.
Je tremble en me disant, mais comment va-t-on survivre? On est vraiment un symbole de Paris, une animation culturelle hors du commun. C'est une aventure humaine de passion, de connaissance dans un cadre unique au monde.
Il espère beaucoup de cette campagne de recrutement lancée par la mairie. 18 places sont à pourvoir jusqu'au 18 février.
Reportage de Clara Gabillet. En sport, les handballeurs français s'apprêtent à affronter le Monténégro ce soir. Ils doivent l'emporter, puis ils pourront se contenter d'un match nul face au Danemark pour atteindre les demi-finales de l'Euro. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée sur RCF.